Métaphysique, 16 mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Je lis les quelques questions posées, puis après, hein, il y en a beaucoup, hélas. C'est très bien qu'il y en ait beaucoup. On va les répondre rapidement, sauf si elles demandent de longues réponses. Pourquoi ne pas avoir l'intelligibilité du bien ? Pourquoi ne puis-je avoir l'intelligibilité du bien que par l'être ? Pourquoi la critique nous montre-t-elle par les transcendantes, nous montre-t-elle que les transcendantaux, ou par les transcendantaux, l'égalité des rationes, c'est pas l'égalité, c'est la convertibilité, c'est pas bien, du bien et de l'être, alors que l'on voit en philosophie première la primauté de l'être. Bon, alors, il faut comprendre. Nous partons de l'expérience. C'est évident que nous partons de l'expérience, on ne peut pas partir a priori. Nous partons de l'expérience et nous apercevons que dans toutes nos expériences implique le jugement d'existence. Qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence ? C'est l'intelligence qui affirme ceci est. Et nous nous posons la question, comment se fait-il que ce jugement d'existence est présent ? En dehors de ce jugement d'existence, je suis dans l'ordre des possibles. Et j'essaie de comprendre progressivement comment, de fait, c'est vrai, l'intelligence se heurte toujours à la réalité en tant qu'elle existe. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. C'est ce qu'il y a de premier. Donc, c'est bien cela que l'intelligence saisit en premier lieu et d'une manière fondamentale. Alors, il y a l'adage, mais je ne peux pas faire reposer sur l'adage. Hein. Ens primo cadit in intellectus, ens. Vous comprenez bien, ceci, c'est le fruit d'une expérience et de toutes nos expériences. Nous ne nous éveillons pas dans notre berceau en disant primo cadit in intellectus, ens. Hein? Non. Et nous l'avons découvert progressivement. Nous découvrons progressivement que toutes nos expériences relèvent d'une certaine faculté qu'on a appelée l'intelligence. Alors là, nous avons, nous, le fruit de toute une tradition. C'est pour ça que constamment, on fait appel à des traditions pour mieux comprendre l'expérience. Il fallait tout reprendre. On ferait très peu de progrès, vous savez. Aller dans un bois... N'ayez aucun livre. Enfin, et puis vous êtes déjà trop âgé, c'est impossible. L'expérience ne peut plus se faire. On ferait ça avec un gosse de 7 ans. Puis on le laisserait découvrir tout. Pour être sûr de ne pas avoir d'a priori. On en aurait encore. Parce que forcément, il faudrait quand même des gens qui le gardent et qui l'empêchent d'être mangé par les grosses bêtes. Alors... Ce serait un a priori. On vit dans une tradition. Dans cette tradition, nous essayons de revenir toujours à l'expérience pour que cette tradition soit purifiée, décantée. Et nous revenons à cette chose première. Oui, c'est vrai, il y a une intelligence qui connaît la réalité. Et qu'à côté de la connaissance, il y a l'amour. Ce sont deux choses différentes. Aimer et connaître. L'amour, c'est le bien qui m'attire. Et la connaissance, c'est la réalité existante qu'il a. Donc c'est à partir de là, vous voyez, qu'on peut découvrir assez vite, du reste, comment l'intelligibilité, que l'intelligibilité de l'être est avant celle du bien. Mais je suis d'accord avec vous que c'est aussi un jugement très ultime, ça. Puisqu'au fond, je crois que c'est tout à fait caractéristique de saint Thomas de le donner de cette manière-là. Ça n'avait pas été donné dans Aristote de cette même manière. Et donc, ça prouve qu'il a fallu quand même quelques années de réflexion au point de vue philosophique et théologique pour arriver à ça. Près de 2000 ans. Alors nous, on dit ça tout de suite. On reçoit la balle au vol. On reçoit tout de suite ça. C'est merveilleux, c'est étonnant. On s'aperçoit que c'est... Ah oui, si vous voulez tout le reprendre, reprenez toute la philosophie. Et vous verrez qu'en effet, dans tout jugement, le point de vue de l'être est présent. Et que le jugement, c'est... Regarde la réalité en tant qu'elle existe. Et que c'est l'intelligence qui se heurte constamment à cette réalité. Mais c'est vrai, il y a tout un passé qui dit ça, ça a mis du temps. Alors vous voyez, il y a deux procédés où on fait un petit peu confiance à la tradition, surtout à des gens comme saint Thomas. Alors on s'appuie sur eux, ça nous aide pour aller plus vite. Puis de temps en temps, on dit, ah mais non, je veux essayer moi de tout reprendre. Et puis on essaie de tout reprendre, mais ça c'est long. Et on est constamment comme ça au point de vue philosophique. Constamment à faire confiance à une tradition, à faire confiance à certains hommes dans une tradition, et puis constamment à tout reprendre. Et je crois qu'il faut les deux, parce que si vous voulez un purisme absolu, vous n'avancerez pas beaucoup. Alors vous faites confiance constamment, puisqu'au commencement de l'intelligence, il y a la foi. Alors on croit dans ce qu'on nous enseigne. Mais ce qu'on enseigne n'est jamais le terme. Il faut toujours revenir à l'expérience. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est simplement pour vous montrer ça. Alors, le point de vue de la critique, c'est normal, la critique réfléchit sur l'intelligibilité. Et donc c'est l'être qui est tout de suite premier. C'est tout de suite l'être qui est premier. Et comme la critique réfléchit sur l'intelligibilité, on comprend comment la critique montre comment, au niveau des transcendentaux, il y a une convertibilité, c'est-à-dire... qui dit convertibilité, dit même extension et même compréhension. C'est ça, être convertible. Il ne faut pas dire l'égalité des rationes. L'égalité des rationes, ça ne va pas. L'égalité, c'est l'unité dans la quantité. Il faut s'habituer à avoir un langage précis. L'égalité, c'est l'unité dans la quantité. C'est pour ça que tous les citoyens sont égaux, parce qu'ils pèsent tous le même poids. Alors, c'est l'égalité, n'est-ce pas ? Tandis que la... Être un dans la qualité, c'est être semblable. Et un dans la substance, c'est d'être identique. L'identité, la similitude, l'égalité, la convertibilité. C'est intéressant de voir tous ces termes différents et bien les comprendre dans leur perspective propre. Donc, au point de vue métaphysique, on comprend très bien que l'on regarde, du reste, c'est pas tellement au point de vue métaphysique, c'est au point de vue critique. Au point de vue critique, on regarde la primauté de l'être au point de vue de l'intelligibilité, la primauté du bien au niveau de la causalité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pouvez-vous réexpliquer comment, à parler de la philosophie de la communauté, nous pouvons poser le problème métaphysique, qu'est-ce que c'est ? Oui, ça c'est évidemment, c'est une chose très délicate et très intéressante. Alors, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire un cours de politique. Donc, on sera constamment, pour vous passionner un peu plus, vous voyez. Et on fera de temps en temps des questions disputées, pour que vous puissiez sortir vos opinions là-dessus. Parce qu'on en a tous au point de vue politique, on a tous des opinions. Parce qu'on a tous... C'est vrai que les passions politiques, ce sont les passions les plus enracinées en nous. Il faut mettre de temps en temps une allumette, ça flambe. Alors, de toute façon, invraisemblable. Parce que c'est le point de vue politique, on est plus passionné. Et alors, au point de vue politique, on peut avoir une très grande diversité d'opinions. On ne vous demande pas, quand vous entrez dans un couvent, ici n'entrent que des socialistes. Non, non, on ne dit pas ça. Ici n'entrent que ceux qui ont voté pour Giscard. Non. ici n'entrent que ceux qui ont voté pour un tel ou tel. Non. On a des opinions multiples et diverses. La preuve, c'est quand M. Barre vient, on voit tout de suite des opinions politiques se lever. M. Barre, c'est pas un homme politique en premier lieu, c'est un homme de point de vue économique en premier lieu, mais il est quand même lié à la politique. Je ne ferai pas venir des politiciens ici, ne craignez pas. On ne va pas demander à Marché de venir. Mais s'il y avait des hommes politiques d'Afrique, ça je pourrais les demander, parce qu'on est plus loin. Alors ça irait. Mais de France, il ne vaut mieux pas. De Suisse, oui, ça pourrait se faire. Pour inviter le président de la fédération, n'est-ce pas, de venir, il viendrait avec beaucoup d'amour. Alors, essayez de comprendre comment le bien commun, bon, il est limité, il est bien et il est fruit. Il est les deux. Alors, il n'est pas le bien tout court. Et donc, on peut se demander, par la découverte du bien commun, s'il existe un bien transcendant. C'est tout à fait normal de se poser la question. Je découvre un bien, j'ai l'expérience d'un bien, j'ai l'expérience, vous voyez, les deux expériences que j'ai. J'ai l'expérience dans l'amour d'amitié, de l'ami. C'est un bien personnel. Puis j'ai l'expérience du bien commun. Le bien personnel transcende. Le bien commun est immanent. Comment expliquer à l'intérieur du bien cette si grande diversité? C'est une manière de regarder. Je vois qu'en effet, il faut donc me poser la question, qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien est-il nécessairement personnel? Le bien est-il nécessairement commun? S'il est personnel, il est individuel. L'ami, c'est quelqu'un d'individuel. Et dans le bien commun, il est commun. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien? Vous voyez, c'est une manière d'aborder le problème. Qu'est-ce que c'est que le bien? Autre manière de montrer la nécessité d'aborder une autre philosophie, c'est de voir que ce qu'il y a de commun à toutes les expériences, c'est le jugement d'existence. Ceci. Donc, c'est les deux qui vont me permettre de poser une philosophie première. Les deux extrêmes de la philosophie première, c'est le bien et l'être. Vous voyez, alors par là, c'est peut-être plus facile de le comprendre tout de suite. L'ami ne m'explique pas ce que c'est que le bien, puisque l'ami ne m'explique pas le bien commun. Mais souvent, on sent une irréductibilité entre l'ami et le bien commun. Si vous avez une très forte expérience du bien commun, de l'ami, ça ne veut pas dire que vous avez l'expérience du bien commun. Il y a assez facilement une antinomie. Il n'y a pas d'antinomie, mais assez facilement, psychologiquement, les gens mettent assez facilement. Entre l'ami et le bien commun. Donc, l'ami n'explique pas le bien commun, et le bien commun n'explique pas l'ami. Il faut donc me demander qu'est-ce que c'est que le bien, parce que je les appelle tous les deux des biens. Qu'est-ce que c'est que le bien? Le bien en lui-même n'est ni l'ami, ni le bien commun. Il est le bien. Exactement comme à la racine des cinq expériences, il y a le jugement d'existence. Vous voyez? C'est intéressant parce que ça montre comment la philosophie première naît à partir d'une certaine réflexion critique. Mais la réflexion critique me pose le problème, mais la philosophie première ne part pas de la critique. Mais elle a un lien. Parce que de fait, je n'ai pas l'expérience directe de l'être. Je n'ai pas l'expérience directe du bien. Du bien qui transcende, du bien en soi. Non, ça c'est Platon qui avait l'expérience du bien en soi, moi je n'ai pas. Je n'ai pas l'expérience de l'être en soi, non plus. Donc, nécessairement la métaphysique, c'est la différence des autres parties de la philosophie. La philosophie première, C'est du reste pour ça qu'on a dit méta, vous voyez. Elle vient après les cinq. Il faudrait dire méta-éthique, méta-politique, méta-philosophie de l'art, méta-physique et puis méta-éthique. Elle est au-delà de tout ça. C'est très curieux, ça. Et ceci me fait comprendre comment elle ne se découvre que par une certaine réflexion critique. C'est une certaine réflexion critique d'opposer les deux. C'est une certaine réflexion critique de saisir le résidu fondamental des cinq expériences. Ceci est jugement d'existence. Alors, il y a un certain aspect critique qui me met l'au-delà des expériences, qui me met l'au-delà du bien commun et de l'ami. Si je réfléchis, je suis bien obligé de reconnaître cela. C'est dans ce sens-là que la philosophie politique me met en présence d'un bien commun immanent, en opposition avec le bien de l'ami, me pose un problème, et qu'est-ce que c'est le bien ? Et je ne peux pas répondre à la question « qu'est-ce que c'est que le bien ?» uniquement par le bien commun, uniquement par l'ami. Et donc, je suis obligé d'avoir une recherche philosophique qui va pouvoir aboutir à ce que c'est que le bien. Comme il y a une philosophie qui aboutit à savoir qu'est-ce que c'est que l'être. Oui. Au dernier cours, vous nous avez dit que le bien doit être dépassé par l'être. Oui. Au point de vue de l'intelligibilité. Hein. Pas au point de vue de la causalité. Le bien ne s'étudie qu'en éthique. Le bien ne s'étudie qu'en éthique, non. Le bien s'étudie aussi en métaphysique. Et l'être qu'en métaphysique, c'est pas tout à fait juste. Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi une métaphysique de l'être peut-elle être supérieure à une éthique du bien ? Elle est diverse, supérieure. Quel est votre critère pour dire supérieure ? Je fais la philosophie pour l'homme. Hein ? C'est ça le critère. Quel critère de ma philosophie ? Je fais la philosophie pour l'homme. Je ne fais pas une philosophie pour la philosophie. Je fais la philosophie pour l'homme. Alors, même la métaphysique, je la fais pour l'homme. L'éthique, je la fais pour l'homme. Ah, j'ai donc, par rapport à l'homme, un critère de savoir qu'est-ce qui est supérieur. La métaphysique ou l'éthique ? Là, je pourrais me dire, l'éthique me semble plus immédiatement pratique. Nous sommes tous d'accord. C'est plus immédiatement pratique. C'est pour ça qu'ordinairement, on peut plus immédiatement comprendre l'éthique que la métaphysique. Parce que nous avons plus facilement des expériences de l'amour d'amitié, de ce que représente notre responsabilité, que le point de vue métaphysique, la recherche de l'être. Je ne sais pas si avant de venir ici, il y avait quelques-uns, mais la plupart d'entre vous ne s'étaient jamais posé la question quand ils voyaient un radis pousser en terre, est-ce qu'il existe ? Peut-être que vous êtes posé la question quand vous aviez 5 ans. Puis votre maman est venue à ce moment-là et puis dit « pense à autre chose, ça vaudra mieux ». Est-ce que ça existe ? Ah, vous vous êtes posé la question au terme d'un cauchemar. Vous avez dit, tiens, c'est un rêve. Ça n'existe pas. Oh, quelle chance. Ça, c'est l'imagination. Et vous avez commencé à faire une distinction entre l'imagination, le rêve et la réalité. C'est vrai, ça. Mais vous n'avez pas été plus loin. C'est pas dit, on peut commencer à réfléchir qu'est-ce que c'est que l'être. Vous savez bien, le père Mandonné disait, on se pose la question qu'est-ce que c'est que l'être quand on a 40 degrés de fièvre et qu'on voit un petit nuage qui se balade. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, très, très, c'est un historien qui disait ça, c'était le père Mandonné. Alors, bon, en tant qu'historien, on comprend très bien. Alors, c'est très vrai. Oui, parce qu'en tant qu'historien, on voit des faits contingents, n'est-ce pas ? Et on voit voyant des faits contingents, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Pas les historiens de la communauté Saint-Jean, mais les historiens en dehors de la communauté Saint-Jean peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Le père Mandonnet s'amusait toujours, mais à la fin de sa vie, père Mandonnet disait des choses très intéressantes. Il revenait de plus en plus philosophe. C'est très curieux, le jeu. Parce qu'au début, il dit, oh, la philosophie... C'est l'histoire qui est intéressante. Ça, ça a existé. La philosophie. Puis à la fin de sa vie, les exégètes n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. Alors vous voyez le paysan qui voyait la vache attachée au piquet. Et puis elle tournait, vous savez, d'un certain temps, elle a mangé tout l'herbe du piquet. Alors elle tourne comme ça en rond. Les philosophes, ah oui, il en faudra tout le temps. À la fin de sa vie, il disait ça. Très curieux. Plus on prend de l'âge, plus on devient philosophe. C'est normal. Au fond, la philosophie, c'est au terme de notre vie. Mais comme on doit être prêtre et doit être ancien, il faut que ce soit tout de suite. C'est à cause de ça. Notre la philosophie, c'est la sagesse. À partir de 45 ans, on commence à être métaphysicien, on va dire d'Aristote. 45 ans, il faut du temps. Au début, pas assez d'expérience. Alors au début, vous savez ce que dit Aristote, la seule chose qu'on peut faire quand on est jeune, des mathématiques. La seule chose. Parce qu'on ne peut pas faire d'éthique, on est trop passionné. Mais des mathématiques, oui. Des mathématiques, oui. On ne peut pas faire de la métaphysique, on n'a pas assez d'expérience. Il faut beaucoup d'expérience pour faire de la métaphysique. Et ça, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'aime à dire que c'est le fruit de toutes les autres expériences. Alors on trouve qu'il y a quelque chose qui est commun à toutes les autres expériences. Et cette chose qui n'est pas expérimentée directement, ceci est. Vous n'avez pas expérimenté l'être. Non. Vous avez expérimenté des quantités d'autres choses. Qui tout existe, mais pas l'être. Et l'air se pose en toute sa pureté à partir de l'interrogation. Alors voyez, quand vous vous posez la question de la valeur, la supériorité, la métaphysique peut être supérieure à une éthique du bien. Je dis supérieure, qu'est-ce que ça veut dire ? Au point de vue pratique, l'éthique passe avant. Au point de vue spéculatif, la métaphysique passe avant. Alors, est-ce que le spéculatif est supérieur à l'éthique et est supérieur aux pratiques ? Ça dépend sous quel aspect. Vous ne pouvez pas trancher. Dans l'ordre pratique, dans l'ordre de la vie humaine, évidemment, l'aspect pratique passe avant. Dans l'ordre de l'intelligence. Mon intelligence ne peut se développer que grâce à une philosophie spéculative. Alors, si je comprends qu'en moi, il y a toujours deux choses. Il y a l'homme actif, l'homme moral, le poète. Et puis, qu'il y a en moi aussi l'intelligence capable de réfléchir et d'aller plus loin que l'action, d'avoir une soif de contemplation. Alors à ce moment-là, je comprends l'importance du développement d'une philosophie spéculative. Mais je peux dire que la philosophie première est supérieure à la philosophie de la nature. Mais dire que la philosophie première est supérieure à l'éthique, je ne peux pas. Je dois tout de suite prendre un double raisonnement dans l'ordre pratique, dans l'ordre de la causalité finale. Le bien est avant l'être. Et donc l'éthique est avant la métaphysique. Dans l'ordre de la causalité finale. Si c'est la causalité finale que vous cherchez en premier lieu, eh bien l'éthique est avant la métaphysique. Mais la métaphysique permettra à mon éthique d'aller plus loin, de devenir une éthique religieuse. Et sans la métaphysique, ce sera très difficile. Donc vous voyez, il y a une espèce d'interaction entre les deux qui fait que je ne peux pas dire d'une façon absolue l'une est plus parfaite que l'autre. Ne faudrait-il pas préciser la distinction entre connaissance pratique et connaissance spéculative ? Très bien. Si en effet, dans l'activité artistique ou prudente, la connaissance est tout entière ordonnée à l'efficacité ou à l'amour, je ne dirais pas l'efficacité, elle est ordonnée à l'action, ce n'est pas la même chose. Dans les parties de la philosophie qui étudient ces activités, par contre, la vérité semble d'une certaine façon voulue pour elle-même. Cela se voit de façon négative dans le fait que faire de la philosophie artistique ne vous rend pas nécessairement plus artiste. Ah, je crois que faire de la philosophie artistique, c'est-à-dire analyser la vie, vous rend beaucoup plus attentif à l'art. Et donc, permet un développement artistique. Ce n'est pas une chose, je suis tout à fait d'accord. Mais ça permet. C'est pour ça qu'un artiste, quand on lui explique un peu philosophiquement ce que c'est que son activité artistique, il en est très heureux. Parce que ça permet à l'artiste d'être plus lucide. Il y a une interaction tout le temps entre le spéculatif et l'artiste, et pas du pratique. Même pour l'art. Il y a toujours une interaction. Au point de vue éthique, ça c'est évident. C'est évident qu'au point de vue éthique, c'est celui qui est uniquement philosophe de la connaissance éthique sans du tout métaphysique. Ça ne va pas très loin. Vous voyez par exemple Marcel, Gabriel Marcel. C'est un homme qui a un sens très aigu de l'éthique. Et sûrement parmi les modernes, c'est celui qui a le sens le plus aigu de l'éthique. Et qui a dit des choses très belles sur la fidélité. Des choses très belles. Mais il lui manque une métaphysique. Si Gabriel Marcel avait eu une métaphysique, il aurait été bien plus loin. Il aurait dit des choses beaucoup plus étonnantes. Il n'aurait pas fait de théâtre. Alors, ça aurait été mieux pour lui. Tandis que là, il en a fait parce qu'il n'avait pas assez de sens métaphysique et pas assez de sens de la philosophie de l'art. Autrement, il n'aurait pas fait de théâtre. Il se serait caché en dessous des fauteuils. Quand on a l'impression que Gabriel Marcel fait du théâtre, on ouvre, on entre dans un salon dans lequel les fauteuils sont restés là depuis 300 ans. Puis tout d'un coup, des personnages. Il faut lire le théâtre de Gabriel Marcel. Il faut lire le théâtre de Gabriel Marcel. Il faudrait jouer en communauté. Ce serait admirable. On se rirait depuis le début jusqu'à la fin. Il y a de quoi rire depuis le début. C'est extraordinaire comme théâtre. Ça vaut la peine. C'est quelque chose d'inouï. Alors il avait une jalousie pour le théâtre de Sartre. Comment se fait-il qu'on aime le théâtre de Sartre et qu'on n'aime pas le mien ? Il ne voyait pas. On ne peut pas faire un théâtre moralisant. C'est pas possible. Et on tombe dans le point de vue moralisant dans la mesure où il n'y a pas de métaphysique. C'est pour ça que c'est un peu moralisant, Gabriel Marcel. Il y a des choses belles, il y a des choses, mais c'est un peu moralisant. Parce qu'il manque de métaphysique. Il manque la dignité de l'homme, que voulez-vous. Il manque la personne de l'homme. Or, la personne de l'homme, on la connaît parfaitement comme métaphysique. Si vous faites de la métaphysique, c'est pour connaître la personne de l'homme. C'est pour ça qu'on fait de la métaphysique. C'est pour connaître la personne de l'homme et dire quelque chose de Dieu. Or, on ne peut pas connaître la personne de l'homme si on ne peut pas dire quelque chose de Dieu. Parfaitement. C'est pour ça que la métaphysique agrandit et empêche d'être étroit. On la goûte plus ou moins. Ce n'est pas la question. C'est essayer d'entrer dedans. On ne va pas tous se spécialiser dans la métaphysique, n'est-ce pas ? Ce serait un peu trop. N'est-ce pas ? Mais il faut comprendre que la métaphysique permet d'aller plus loin dans le sens artistique, dans le sens politique et dans le sens proprement éthique. Parce que la philosophie spéculative éclaire et est la philosophie pratique. Mais je ne dirais pas comme disaient les scolastiques. Les scolastiques disaient la connaissance pratique, la connaissance spéculative devient pratique en s'appliquant. Alors, il y avait une copie merveilleuse, vous savez, dans Jean de Saint-Thomas. Fit practica ex extinctionné. Non pas ex expansionné. Alors c'était l'extension qui est devenue justement ce qui permettait d'éteindre. N'est-ce pas ? À la place de mettre l'extension, la philosophie spéculative en s'appliquant devient pratique. La philosophie spéculative en s'appliquant ex extensionné, c'est très faux. Ça, c'était l'escalade. C'était une erreur de ce que le père Garrigou répétait encore. Moi, c'est ce qui m'a toujours heurté en point de vue de la scolastique décadente. Même quand elle était bonne, quand elle était de Jean de Saint-Thomas, on ne peut pas dire ça. La philosophie pratique a ses principes propres, qui sont des principes qui viennent de l'éthique, qui viennent de la philosophie de l'art, qui viennent de la politique. Ce ne sont pas des principes qui viennent d'en haut. Et c'est un peu ça qui fait que la philosophie politique, elle est régentée par une morale. Alors, il y a des gens politiques qui se présentent, qui sont uniquement des moralistes. Ils ne font pas rien du tout à la politique. Ils ont une bonne famille, ils ont élevé des enfants pieusement. Non, la politique exige une autre dimension que la dimension éthique et que la dimension familiale. C'est autre chose. Exactement comme l'art. Alors, si c'est fit practica expansionné, vous voyez le résultat. Toute votre philosophie spéculative, alors c'est les chutes du Niagara, ça dégringole et ça devient pratique. Alors, quand vous êtes sur la chute, vous voyez que ce n'est pas pratique du tout. N'est-ce pas ? Mais c'est pas pratique du tout. Il faut découvrir les principes propres de la philosophie de l'art et les principes propres de la philosophie éthique à partir de mon expérience. Mais il y a des liens très très curieux et très mystérieux du reste. C'est très difficile à bien préciser les liens. Alors on peut dire qu'il y a une certaine subordination de la sagesse par rapport à toutes les parties de la philosophie. Une certaine subordination, mais de la sagesse, pas de la métaphysique. Mais la métaphysique est claire, c'est normal. C'est la même intelligence qui est spéculative et qui est pratique. Et donc si mon intelligence devient plus pénétrante, plus aiguisée en philosophie spéculative, il y aura nécessairement en philosophie pratique une répercussion. Alors, donc, on dit à partir de là, n'y a-t-il pas trois niveaux ? Connaissance pratique, prudence, art, vérité, envie de l'action. Philosophie pratique à partir de l'action, mais vérité cherchée pour elle-même. Ah, c'est pour le pratico-pratique de Maritain, ça. Ah, je vois. Y a-t-il trois niveaux ? Alors, ça dépend. Bon. On va essayer de voir ça. Ça dépend comment se situent les niveaux. Si je situe les niveaux au point de vue philosophique, c'est-à-dire au point de vue de la perfection de l'intelligibilité, que j'ai dans les différents domaines, puisque la philosophie est une science, c'est elle dans le sens aristotélicien. Science dans le sens aristotélicien. Donc, elle me donne des niveaux d'intelligibilité et des niveaux parfaits d'intelligibilité. Alors, je dis, le premier niveau d'intelligibilité, le suprême, commençons par le suprême, c'est la sagesse. Second niveau d'intelligibilité, c'est la philosophie première, analytique, métaphysique. Troisième niveau d'intelligibilité, c'est inférieur à la sagesse. Troisième niveau d'intelligibilité, la philosophie du vivant. Quatrième niveau d'intelligibilité, philosophie de la nature. Vous voyez le degré du savoir, hein ? C'est ça qu'il faudrait reprendre. Là, vous avez des degrés d'intelligibilité qui sont donnés à travers les sciences, c'est-à-dire à travers la philosophie. Puis alors, vous avez ensuite cinquième degré d'intelligibilité, l'éthique. Sixième degré d'intelligibilité, philosophie de l'art. Septième degré d'intelligibilité, le point de vue, la philosophie politique. Il avait 7 degrés d'atelier, Jupiter. On ne peut pas être autrement. Au niveau philosophique, vous avez 7 degrés d'intelligibilité qu'il faut respecter. Donc vous avez 7 vérités différentes. 7 modalités de vérité. Toujours on arrive au chiffre 7, hein, c'est assez amusant. Et à partir de là, vous pouvez comprendre ce que représente l'homme dans sa recherche de la vérité. Vous avez 7 pistes. Il y a une vérité politique, il y a une vérité dans l'ordre de l'art, et alors à l'intérieur de l'art, tout est bonheur. Il y a l'éthique, il y a la philosophie de l'éthique. Et alors l'éthique, on a vu l'éthique humaine, l'éthique religieuse. Alors l'éthique religieuse, elle est dépendante de la sagesse, directement. Philosophie de la nature, philosophie du vivant, philosophie. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez ceci, connaissance spéculative. 4 niveaux de connaissance spéculative. 3 niveaux de connaissance pratique. Au niveau intelligibilité, comprenez bien, donc au niveau réflexion philosophique. Alors, tandis qu'ici, voilà ce qu'on dit. N'y a-t-il pas 3 niveaux? Connaissance pratique. Et la connaissance pratique, ce n'est plus un niveau d'intelligibilité. Quand vous faites un acte de prudence, vous comprenez bien, vous n'êtes plus au niveau de la philosophie. Vous êtes un acte de prudence, c'est tout. Vous pouvez, en tant que philosophe, réfléchir sur votre acte de prudence. Et vous faites de la philosophie. Mais quand vous faites un acte de prudence, vous ne faites pas de la philosophie. Vous vivez, tout simplement. Et toute votre philosophie est pour vous permettre de faire avec le plus d'astuces possible cet acte de prudence. Et en faisant cet acte de prudence, vous êtes au niveau d'une connaissance pratique, mais vous n'êtes pas au niveau d'une intelligibilité. Les niveaux d'intelligibilité sont au niveau de la science. Les degrés du savoir, c'est les degrés de science. Dans la vie pratique, quand vous faites de la poésie, ou quand vous faites un art artisanal de la menuiserie, vous n'êtes pas à un niveau d'intelligibilité. Vous êtes tout simplement à un niveau d'action humaine. Et c'est ce niveau d'action humaine, c'est une action du facere ou de l'agir. Mais vous ne réfléchissez pas en disant quel degré d'intelligibilité je suis. Vous voyez ça? Ce serait d'une imprudence forte de faire ça. Parce qu'en réfléchissant là-dessus, votre acte prudentiel, il s'évacue. C'est bien évident. Quand on fait un acte prudentiel, on est totalement engagé. Quand on fait un acte du facere et du travail, on est totalement engagé. Tandis qu'au contraire ici, je suis totalement engagé, mais dans une réflexion philosophique. C'est une réflexion philosophique. La philosophie, c'est pas la vie. C'est autre chose. Hein. La philosophie, c'est pas la vie. La philosophie est au service de la vie. Et vous vivez au niveau contemplatif, au niveau sagesse, c'est votre contemplation. Au niveau métaphysique, c'est une analyse scientifique, c'est une analyse. Vous analysez, votre vie se donne à l'intérieur de la connaissance, et ainsi de suite. Donc, ne confondez surtout pas philosophie et vie. Et les 3 degrés de vie, nous étudions en philosophie du vivant. Nous faisons de la philosophie avec les 3 degrés de vie. Nous vivons tous les jours notre vie de vie végétative. Prenons notre petit déjeuner du matin. Nous faisons tous les jours. Et à ce moment-là, vous ne faites pas une réflexion philosophique en disant qu'est-ce que c'est que l'assimilation? Ça vous empêche de manger. Donc, la connaissance pratique n'est pas un niveau d'intelligibilité. La philosophie pratique est un niveau d'intelligibilité. Là. Et la philosophie spéculative aussi. Alors, vous pouvez dire 2 grands niveaux d'intelligibilité. Et ma vie humaine. 2 grands niveaux d'intelligibilité, et à l'intérieur de ces 2 grands niveaux d'intelligibilité, je distingue 4 niveaux. Alors je pourrais ajouter, si j'étais exhaustif, le niveau mathématique, qui est quelque chose de sous-générique, c'est quand même très important. Je mets immédiatement en dessous de la métaphysique est au-dessus de la philosophie du vivant. En réalité, il est en dehors. Il est quelque chose de tout à fait particulier. Et ce qui est très curieux, c'est que la sagesse, comme les mathématiques, peuvent se subordonner certaines sciences intérieures. Il y a une double subordination qui se fait par les mathématiques et qui se fait par la sagesse. Il y a une subordination qui se fait par la sagesse parce que la sagesse peut se servir de toutes les parties de la philosophie. Et c'est par la sagesse que la philosophie est au service de la foi de la philosophie. Ce n'est pas immédiatement la politique qui est au service de la foi. C'est la politique subordonnée à la sagesse. Et c'est par la sagesse que toutes les parties de la philosophie sont au service de la foi. Donc, vous voyez bien, ça c'est très important de bien distinguer les niveaux d'intelligibilité qui sont donnés par la philosophie et puis la vie humaine. C'est deux choses différentes. Il faut bien distinguer les deux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je récuserai, il n'y a-t-il pas trois niveaux. La connaissance pratique, c'est de la prudence et de l'art, c'est du vécu. C'est le vécu, ça. Mais le vécu n'est pas un niveau d'intelligibilité. Il faut thématiser le vécu pour découvrir le niveau d'intelligibilité. Et je thématise le vécu, c'est-à-dire je thématise l'acte politique, je thématise ma réalisation artistique, je thématise mon opération morale, je thématise la connaissance et l'expérience que j'ai de ce qui est mu, du vivant, de ce qui se meut, et de ce qui est, pour découvrir ces niveaux proprement philosophique. Dernière question. La dernière fois, nous avions vu les différentes voies pour rentrer en métaphysique. Notre société étant très sensibilisée au problème de la liberté, celle-ci ne serait-elle pas de même une porte pour rentrer en métaphysique? En effet, cette conscience que nous avons d'être libres exige qu'on aille toujours plus loin. Elle est cette réalité qui s'acquiert toujours plus profondément. Serait-il possible d'expliciter cela et quelles en seraient les limites? C'est évident, quand vous regardez Descartes, vous voyez que Descartes dit cette chose curieuse, que l'expérience que j'ai de la liberté et la connaissance que j'ai de la liberté, c'est ce qui me permet d'être le plus proche possible de Dieu. C'est par la liberté que je découvre ma plus grande ressemblance avec Dieu. Nous nous disons, dans une perspective réaliste, que c'est par la métaphysique de l'être. C'est l'être qui nous met le plus proche de Dieu, pas la liberté. Et c'est peut-être très intéressant de regarder l'opposition entre les deux. Est-ce que la liberté est une voie d'accès vis-à-vis de la métaphysique? Je crois que toutes nos expériences peuvent être une voie d'accès à la métaphysique, puisque l'être est présent dans toutes nos expériences. Mais on peut prendre des expériences qui sont plus ou moins vécues, avec une intensité plus ou moins grande. Si je prends donc la liberté qui est vécu dans notre monde d'aujourd'hui avec une intensité très grande, c'est peut-être justement une voie d'accès particulièrement importante. Je suis assez d'accord à montrer que l'expérience de la liberté au cœur de l'éthique, au cœur de la philosophie de l'art, est peut-être quelque chose qui me permet de comprendre qu'il y a là quelque chose de central sur lequel je dois nécessairement dépasser mes diverses actions pour aboutir à quelque chose de plus profond. Alors, sous quel biais devrions-nous le faire? Je crois que c'est tout simplement en voyant la diversité de nos actes libres. L'acte libre de l'artiste, l'acte libre de l'ami, l'acte libre de l'homme politique. Vous avez trois types de liberté tout à fait différentes. Alors, est-ce que ces trois types de liberté tout à fait différents ne nous obligent pas à dépasser telle ou telle modalité de la liberté pour nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la liberté à travers ces actes? Et nous verrions tout de suite que c'est le jugement, l'intelligence, dans son activité qui juge, qui nous donne l'autonomie. Et qui est racine d'autonomie. Et nous pourrions par là creuser par l'esprit un fondement à ce que représente la liberté. Je crois qu'on peut le faire. Et vous voyez, c'est complexe, hein ? Ça revient à l'opération éthique. Est-ce qu'il y a une voie propre ? Je ne crois pas. Ou ça revient à l'opération artistique ? Ou ça vient à l'opération politique ? Et donc, de nouveau, je suis en présence de ces trois grandes opérations pratiques et me dire qu'est-ce qu'il y a de commun ? Et ce qu'il y a de commun, c'est que tout ça existe. Ceci est. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait par la liberté une voie d'accès nouvelle, irréductible aux autres voies d'accès que je vous avais montrées. Mais il y a quelque chose qui peut illustrer et nous aider à comprendre.